Je regardais mon journal de Montréal ce matin à la une. Un beau petit couple qui a l'air vraiment très amoureux, a l'air à nager dans l'argent, pas à peu près, accusé de fraude cependant, trahi par leur Mercedes. Alors ça m'a intrigué un petit peu, puis je suis allé lire ce que c'était cet article-là. Ils sont achetés un luxueux véhicule utilitaire sport, un Mercedes GLE d'une valeur de 141 000 $. Ils sont tombés dans le piège. On va tenter de savoir pourquoi, mais juste avant, je vous explique, c'est qu'ils donnent, eux, dans la monnaie virtuelle, dans le Plex Coin. Puis, si t'es resté là, peut-être que ce ne serait pas fait prendre, semble-t-il. Je ne suis pas spécialiste du tout en la matière, mais lui, il est Martin Lalonde. C'est le président gestionnaire de portefeuille chez Investissement Rivemont, que vous entendez régulièrement d'ailleurs avec le collègue Roch Cholette. Il est avec nous ce matin. Martin Lalonde, bonjour.
Allô, Mario.
Merci de prendre le temps de venir nous démêler dans tout ça. J'ai comme l'impression qu'on n'en sait pas beaucoup sur la crypto-monnaie, le fameux Bitcoin. Dans ce cas-ci, là, on parle du Plex Coin. Démêlons-nous ce matin, là, c'est quoi cette monnaie-là qui est de plus en plus présente là, dans notre langage?
Oui, si on parle du Bitcoin, pour faire une analogie qui est assez simple, c'est un billet de banque, il y a un numéro de série dessus, donc une série de chiffres. Le Bitcoin en tant que tel, c'est un moyen de paiement sur Internet qui a été créé maintenant il y a une dizaine d'années et qui utilise seulement ces chiffres-là pour faire les transactions. Donc, on n'a pas besoin de billets, on n'a pas besoin de rien, on a besoin d'une série de chiffres et de lettres, et c'est notre fortune ou c'est nos bitcoins qui sont exprimés de cette façon-là. Donc, il est facile de transférer ce type de monnaie-là d'une personne à une autre juste en échangeant cette clé de chiffres et de lettres-là.
Et tout ça, évidemment, c'est du virtuel. Il n'y a rien de
c'est
tangible.
C'est tout virtuel.
Bon.
C'est tout virtuel. Par contre, il est possible de rendre tangible une clé de crypto-monnaie de différentes façons. On peut l'imprimer, donc on peut l'avoir chez nous sur un papier, une série de chiffres qui équivaut à un certain montant d'argent. Ou on peut éventuellement, comme ils ont fait dans ce cas-ci, le transférer en argent comptant.
Je vais y revenir justement, puis ça c'est la raison pour laquelle ils sont tombés dans le piège. Là. Quelqu'un qui dit ce matin, je m'intéresse à ça, je veux me lancer, je veux faire fortune, je veux me lancer dans de l'argent virtuel, là, les coins, on part d'où dans ce temps-là?
Bien, présentement, il y a deux façons de faire. Soit on va sur un échange en ligne qui existe. La plus connue au Canada s'appelle CoinSquare. La plus connue aux États-Unis s'appelle Coinbase. Donc, c'est des échanges en ligne qui ne sont pas encore régulés par nos différents, par l'AMF, par l'OSC en Ontario, par exemple. Donc, c'est un peu, il faut faire confiance, si on peut dire, à ces échanges-là. Et il y a depuis quelques temps des différents fonds d'investissement qui, eux, sont régulés par l'Autorité des marchés financiers, qui ont été mis sur place, notamment le fonds Rivemont Crypto.
Combien ça vaut, par exemple? Est-ce que ça se compte à l'unité, un Bitcoin ou un Plexcoin ou un peu importe quoi?
C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Un Bitcoin, présentement, vaut à peu près 6 600-6 700 $. Okay. Ça a monté jusqu'à 20 000 $ au début de l'année. Et au début de 2017, c'était environ 400 $. Donc, il y a une très grande volatilité. Et qu'est-ce qui est arrivé avec le couple qu'on parle ici, c'est que au cours des derniers mois, il y a différents projets qui ont été mis en place et les gens se faisaient payer pour partir ce projet-là par des bitcoins, avec la promesse d'émettre une nouvelle crypto-monnaie, si on peut dire.
Bon, et là,
dans ce cas-ci, le Flexcoin.
Bon, dans ce cas-ci, ces gens-là ont fait l'erreur de faire une transaction via une institution financière, sinon ils passaient sous le radar.
Il passait sous la dent parce qu'il est possible encore d'avoir plusieurs crypto-monnaies, si on peut dire, du Bitcoin ou de l'Ethereum ou les plus connus, dans des portefeuilles virtuels qui sont à peu près inaccessibles pour les autorités comme l'AMF. Donc, au moment où eux ont transféré les Bitcoins qu'ils ont reçus des investisseurs dans leur Flexcoin, quand ils les ont échangés pour de l'argent comptant pour le dépenser, bien, c'est là que les autorités ont pu dire que cet argent-là vient des investisseurs, donc c'est possiblement frauduleux.
Donc, eux étaient actifs dans la promotion d'une monnaie virtuelle qui s'appelle le Plexcoin. Ils ont floué des investisseurs en disant « investissez dans le Plexcoin », ce qui leur donnait évidemment, plus il y avait d'investisseurs, eux, leur cagnotte grimpait. Puis à un moment donné, ils ont décidé de prendre cet argent-là pour aller s'acheter un véhicule via un compte traditionnel bancaire. Puis c'est comme ça qu'on a pu les remonter jusqu'à eux.
Et voilà. Donc, la plupart des des projets comme ça qui vont chercher du capital au Canada, donc ça s'appelle des ICO. C'est frauduleux parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir l'autorisation de l'AMF pour se faire. Il y en a très peu qui réussissent à passer cette difficulté-là.
Pour compléter peut-être ce matin, Martin Lalonde, comment faire justement pour le compléter, pour être crédible, là, puis que les gens puissent, après ça, je ne sais pas, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, il y en a plein, là. Mais pour y arriver à ce que l'AMF nous reconnaisse, on fait quoi?
C'est ça. Donc, la première chose à faire, c'est les contacter, leur parler de notre projet. Et eux, ils en reçoivent plusieurs, des projets comme ça. Donc, ils vont guider l'investisseur ou la personne qui crée le projet sur quelle démarche et quoi mettre en place pour s'assurer que ça respecte les règles.
Ça va-tu tenir le coup dans 5, 10, 15, dans 30 ans? Est-ce qu'on va parler encore de ça? Est-ce qu'on va vivre que de ça? Ou si c'est appelé peut-être à disparaître, selon toi?
Nous, de notre côté, on pense que la plupart des portefeuilles d'investissement dans 4-5 ans vont avoir une portion du portefeuille qui va être dédiée aux crypto-monnaies. Donc, ça va devenir une classe d'actifs. Est-ce que ça va remplacer le dollar canadien ou le dollar US? On ne le croit pas, mais ça va être d'une très grande utilité pour plein de choses. Donc, nous, on ne croit pas que c'est appelé à s'éteindre.
Et est-ce que ce sera à ce moment-là, tu sais, les fois là, on compare le dollar canadien au dollar américain, ou en Europe, à l'euro, par exemple, est-ce que quand on parle de coin, peu importe lequel, est-ce que ça a une valeur égale, unique à travers le monde, ou ça change selon les pays?
C'est la beauté de la chose, c'est que les échanges peuvent se faire de façon virtuelle partout dans le monde sans utiliser de taux de change. Donc, c'est une transaction qui est quasi instantanée et c'est la même partout dans le monde, donc ça évite d'avoir besoin de transférer des monnaies par exemple, Canada vers l'euro ou vers un yen japonais.
Intéressant. Merci beaucoup pour ton temps, Martin Lalonde.
Ben, ça me fait plaisir.
Bye-bye. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi.
Martin Lalonde, président gestionnaire de portefeuille chez Investissement Rivemont. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. C'est pas à risque, mais tout dépend qui est derrière ça. Je pense que l'AMF, c'est ce qui est venu nous dire là, de vérifier avec qui on a affaire dans ce dossier.
Il n'est pas à risque, mais Mario, en début d'année, c'était à 20 000 $ le Bitcoin. C'est oui. Descendu actuellement à 6 000 quelques $.
Mais ça, c'est comme n'importe quel investissement ailleurs. Faut savoir un peu dans quoi on s'embarque, peut-être pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme nous dirait certains, le spécialiste de l'investissement.